bois dans les quartiers qu'on vient de vous présenter. La séance précédente vous a présenté le quartier de la place d'Armagnac, la centralité qu'on cherche à développer à cet endroit. Et les trois représentants qui sont à mes côtés, monsieur Lapastour, donc le représentant de FH Immobilier, le promoteur de notre premier immeuble en bois, monsieur Blondeau Pâtissier, qui est son associé, un petit peu ingénieur en chef, en quelque sorte, de cette conception bois, et monsieur Daubigny, qui est lui l'industriel, le constructeur qui va assembler cette construction, vont vous présenter là beaucoup plus dans le détail ce projet. C'est-à-dire qu'on va passer finalement d'une échelle urbaine, d'une échelle architecturale de ce que l'on a présenté dans la conférence précédente, à une échelle beaucoup plus de comment on fait. Comment on fait quand on veut y appliquer une construction bois. Peut-être au préalable, pour ceux qui n'étaient pas là, rappeler le contexte très rapidement. Donc, cette opération intervient toujours dans le cadre de l'opération Euro-Atlantique que j'ai présentée dans les conférences précédentes. Opération Euro-Atlantique, c'est une opération d'aménagement relativement importante. On a regardé les périmètres précédemment qui visent à accueillir des emplois, des bureaux, des espaces publics, c'est tout ce qu'on vient de voir. Cette opération dont on va parler là résume ces objectifs-là, puisqu'il va y avoir à la fois un immeuble de bureau, à la fois des immeubles de logement dans l'opération qui vont vous être présentés, le tout dans une logique de développement économique. Le développement économique, c'est la deuxième jambe de l'Atlantique. La première, c'est l'aménagement. Le développement économique, c'est la deuxième, puisque si on crée des quartiers pour accueillir des nouveaux habitants, il faut aussi qu'ils trouvent du travail. Et donc, dans notre travail du quotidien, on va chercher à trouver des systèmes pour créer cet emploi. Le développement de la filière bois dont on va parler aujourd'hui en fait pleinement partie, puisque on est dans une région où les massifs forestiers sont extrêmement importants. Donc, ça semble assez évident qu'on peut avoir un lien avec la construction bois et que si on donne à construire en bois, les forestiers vont pouvoir vendre leur forêt. Mais ce n'est pas que ça, la construction bois. Il faut aussi que les industriels, aussi que les constructeurs participent à cet effort et donc s'outillent, investissent pour être en mesure de répondre à cet objectif. Et donc, notre politique de développement économique en matière bois, de soutien à la filière bois, c'est de donner à voir à travers un certain nombre de constructions à réaliser par an, de l'ordre de 25 000 m², un débouché suffisamment important pour que les entreprises locales investissent dans des machines-outils, dans de la découpe laser, dans des systèmes de colle de bois pour mettre en place ces immeubles qu'on va vous présenter et ainsi créer de l'emploi local en accompagnement de l'opération. Cette opération donc intervient dans un des quartiers qui va être au centre de l'opération, au centre géographique de l'opération. Et c'est d'ailleurs pour ça que ces immeubles iconiques sont sur cette place. C'est-à-dire que symboliquement, ces immeubles vont venir marquer la centralité de l'opération Euro-Atlantique, vont donner une image iconique à ce développement et on va en être en quelque sorte l'adresse, la photo carte postale. On a évoqué tout à l'heure où ça se situait, donc ça se situe derrière la gare, au niveau de l'actuel centre de tri, là où il y a un carrefour avec le tramway. On a donné quelques images dans la réunion précédente de ce quartier, de ces différents immeubles, de l'architecture qui va être mise en place, de la grammaire architecturale qu'on va mettre en place sur ce quartier. Tout ça, l'équipe précédente l'a développé. Et donc, pour ces derniers immeubles, et en particulier l'opération Hyperion que l'on voit sur l'image du haut, on va maintenant vous développer précisément comment cela fonctionne. Donc, deux immeubles iconiques qui vont venir border cette place, dont les échelles sont calquées sur l'échelle de la place. Pour mémoire, cette place, elle sera plus grande que la place Gambetta dans le centre-ville. Donc, ça vous donne un petit peu les effets d'échelle, les effets de masse qui vont être autour. Pour rentrer précisément dans la réunion d'aujourd'hui, les points que l'on a demandé de travailler particulièrement à l'équipe qui va vous présenter l'opération et dans le cadre de son projet, ce sont les trois points suivants. Être l'autotème, c'est l'icône de la construction bois sur Bordeaux. C'est-à-dire que cette opération, elle a une valeur exemplaire. Il faut que non seulement tous les process qui sont imaginés, techniques, économiques, d'ingéniosité tout simplement, de mise en place de l'opération, soit exemplaire, soit reproductible sur Bordeaux et ailleurs pour que on développe vraiment la construction bois. Pour mémoire, la construction bois en France, par rapport à d'autres pays, aux États-Unis, au Canada et autres, est extrêmement faible. Or, c'est plutôt sain comme matériau, comme dans une logique de développement durable. Donc, comment on soutient ça ? Comment on le soutient, mais localement ? L'idée, ce n'est pas d'aller acheter du bois en Finlande, en Estonie, en Autriche. C'est d'acheter du bois ici, de le transformer ici pour que la valeur ajoutée, la richesse, soit réinjectée dans le tissu local. Et enfin, comment on profite de toutes ces technologies, cette implication des différents acteurs pour permettre le développement de techniques innovantes. Comment, avec un projet comme celui-là, qui dépasse un petit peu les limites usuelles en termes de techniques, de faisabilité, on invente des nouveaux produits, on invente des nouveaux assemblages pour ensuite les reproduire à grande échelle et ainsi participer au développement général de la construction. Donc c'est à travers ces différentes thématiques que l'équipe va désormais vous présenter son projet.
Bonjour à tous. Donc, je vais vous dire quelques mots du choix de construire en bois pour le groupe FH. On va le faire. Voilà. Donc en fait, le groupe FH, on est avant tout connu pour notre métier de constructeur, puisqu'on est un des trois premiers groupes nationaux à construire. Et au sein de la construction, donc, il y a une équipe immobilière. Donc notre souhait en tant que responsable de l'immobilier, c'est de construire différemment. Être à l'écoute du marché. Je pense qu'il y a une vague de volonté de nos clients à construire différemment, à avoir des choses plus écologiques. Donc le groupe s'intéresse à ça. Donc c'est vrai qu'au-delà de notre image de groupe de construction de béton, on a la volonté de proposer du bois. Ça nous crée une synergie aussi entre les différentes structures de l'entreprise. Et c'est vraiment le titre qu'on a mis, c'est surtout construire autrement et différemment et se différencier. Donc on va vous présenter à tous les trois la technique. Notre volonté, ce que disait Alexandre, c'est pas d'avoir de beaux projets qui sortent pas, mais d'avoir des choses concrètes. Donc on se cache pas, la construction bois est plus chère que la construction traditionnelle. Mais je pense qu'on a la volonté de sortir des opérations réalistes qui te permettent d'équilibrer et de faire des choses et que ça soit plus récurrent. Quoi. On n'est pas là pour faire un objet, mais le mettre. Donc les petits exemples qu'on vous a donnés, c'est on en fait déjà ensemble, donc avec notre partenaire, donc Oudéon Promicea. On a une opération en cours qui est même, je pense, livrée là, de l'année, où on a construit des projets en bois. On en a une autre opération où la réflexion, là, c'est un peu différemment. C'est des blocs d'unités, un peu ce que vous avez à l'extérieur des containers. Mais là, on a fait des systèmes 3D, ce qu'on appelle des cellules de vie toutes faites en 3D qui sont venues assembler. Donc, c'est une opération qu'on a réalisée l'année dernière, ou il y a même 2 ans, à La Rochelle, où, en fait, dans un temps limité, on a construit des logements étudiants sous cette forme-là. Après, l'expérience qu'on a eue donc, de la Tour Bois, où on a été lauréat en mars 2016 de cet appel à concours, nous permet aussi aujourd'hui de reproduire cette réflexion dans d'autres sujets. Là, on a quelques exemples. Voilà. Donc, juste sur le projet, en fait, on n'est pas tout seul dans le projet. Donc, on a réalisé ce concours avec donc, Oudéum. Donc Renaud, qui est le technicien depuis le début, qui nous a accompagnés dans toute la méthodologie, mais aussi ses collègues qui ont une réflexion aussi sur le produit fini, sur le projet, parce que le but de ce bâtiment, c'est de vendre au détail des logements à des personnes physiques, donc de correspondre à leurs besoins. Voilà, donc FH Immobilier, donc on est le représentant de l'équipe, et on a deux partenaires, Atlantic Aménagement et Clercienne, qui nous accompagnent dans le projet global sur la partie sociale du projet. Notre architecte qui s'excuse de ne pas être venu parmi nous, mais qui est l'équipe Jean-Paul Viguet, donc architecte connu et qui a pas mal de références. Voilà. Les techniciens, donc les bureaux d'études techniques CETAP, TRL, plus particulièrement sur le bois, Vulcano, Aldaï et Socotec, le bureau de contrôle. Voilà. Je vais passer la parole à Renaud qui va vous expliquer un peu le projet. Donc ça, c'est une image d'ensemble. Vous l'avez vu tout à l'heure sur le projet de mes confrères. Donc il y a trois corps de bâtiments. Il y a un bâtiment qui se détache, qui est un immeuble de bureau. Il y a l'élément de grande hauteur proprement dit qui est à ossature bois, que Renaud va bien vous expliquer. Et après, une autre partie traditionnelle. Ce n'est pas une opération tout bois. En fait, c'est un mix. C'est ce qui nous permet aussi de trouver un équilibre financier et de rester dans le marché. Je pense que c'est important aussi de proposer du bois qui ne soit pas hors de prix et hors d'atteinte. Donc, l'objet là, c'est un équilibre financier entre une partie qui est à ossature bois, une partie qui est assez traditionnelle, un autre programme de bureau, et c'est le tout qui nous permet de proposer des projets dans le marché. La volonté, notre volonté et celle de l'Atlantique, c'est de rester dans le cadre d'un marché et d'une économie de projet. Voilà, donc je disais tout à l'heure, ça nous a, cette réflexion qu'on a eue commune nous permet de rebondir et de participer à des réflexions. Là, à Dif Bois, pour ceux qui connaissent, donc, on a répondu à des consultations et on a un autre exemple, je crois. Vas-y. Voilà, où on est en concours sur un autre immeuble de grande hauteur de réflexion sur le Havre. Voilà, je vais te passer la parole, Renaud.
Merci Hervé, bonjour. Donc moi, je vais vous parler un petit peu technique, puisque finalement, ce projet, bon, vous en avez vu quelques images, mais c'est avant tout pour nous un projet technique. Depuis le concours, donc depuis, on va dire, 2015 et 2016, où on a vraiment travaillé sur le sujet, bah en fait, la technique est au cœur de nos réflexions. Et donc, pourquoi cet immeuble est un immeuble, on va dire, techniquement intéressant et innovant? Puisqu'en fait, on rentre dans des hauteurs, on va dire, pour le bois qui commence à être assez nouvelle sur les constructions modernes. Donc là, aujourd'hui, on vise de réaliser un immeuble de 57 mètres de haut. Donc, alors pour les gens qui connaissent, on parle en logement d'immeuble de quatrième famille, c'est-à-dire où l'entrée du dernier logement est à moins de 50 mètres. Donc là, c'est le cas. Ensuite, on a des duplex au dernier niveau. Et en fait, cet univers de la quatrième famille, qui est en fait les bâtiments d'habitation entre 28 mètres et 50 mètres, est, on va dire, absent pour les structures bois. Donc, dès qu'on a, on va dire qu'on a abordé ce projet, il y avait un vrai défi technique. Donc, l'équipe qu'on a constituée, vous avez vu, c'est une équipe pluridisciplinaire qui nous a permis de répondre à tous ces défis. D'abord à gagner le concours, mais surtout à répondre à tous ces défis et être aujourd'hui prêt à construire cet ouvrage. Donc, moi, je vais essayer de vous présenter vraiment un peu plus la technique. Donc là, une petite animation du bâtiment pour vous puissiez comprendre un peu les éléments. Et puis après, je reviendrai en détail sur un peu tous les éléments. Donc, si on déshabille le bâtiment, donc bien sûr, il y a une façade, des balcons. J'y reviendrai un peu plus en détail. Le bâtiment s'articule autour d'un noyau, vous verrez, qui regroupe certaines fonctions importantes du bâtiment. Et ensuite, c'est un bâtiment dont la structure porteuse et la structure qui permet de descendre les charges jusqu'au sol est réalisée en bois, et ou majoritairement en bois. Donc, c'est un procédé assez classique de poteau-pout de bois, lamellé-collé et de plancher CLT. Donc le CLT est un panneau massif de grande dimension qui permet de réaliser des planchers assez fins et très résistants. Et on a, disons, fait un assemblage raisonné, un assemblage de plusieurs techniques qui nous ont permis de réaliser cet ouvrage. Donc ce qui est important de savoir, c'est que ce n'est pas finalement les techniques en elles-mêmes qui sont spécifiquement nouvelles. On a plutôt choisi les bonnes techniques qui permettent de réaliser des ouvrages. Et ensuite, l'innovation consiste à réaliser avec ces techniques un bâtiment de grande hauteur. Donc ça ne veut pas dire que c'est simple, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à développer, mais je vais revenir un petit peu plus en détail. Donc ce que vous avez vu sur l'animation, vous avez vu un noyau béton. Donc un noyau béton, c'est un élément central qui permet en fait de regrouper tout ce qui est circulation, escalier, ascenseur, une partie des circulations verticales nécessaires au bâtiment que sont les fluides, donc c'est-à-dire l'eau, l'air. Donc ce noyau béton permet en fait de stabiliser la structure. On y reviendra un petit peu après. Les planchers des logements, les logements sont tous en plancher bois. Donc c'est des panneaux massifs de grande dimension qui permettent de réaliser toute la structure porteuse et le confort du bâtiment posé sur un réseau de poteaux et de poutres bois. Alors ici, vous avez une image d'un étage du projet. Donc en périphérie, des poteaux bois, des poutres bois et ensuite des panneaux CLT qui viennent réaliser tous les planchers. Donc ensuite, là je vous ai parlé plutôt structure, ensuite il y a encore du bois pour habiller l'ouvrage, puisque bah, vous en doutez, la structure ça ne fait pas grand chose dans un bâtiment d'habitation. Donc en fait on a un mur, ce qu'on appelle un mur manteau, c'est des panneaux d'ossature bois qui viennent embarquer pas mal de fonctions, c'est-à-dire tout ce qui est menuiserie, tout ce qui est étanchéité à l'air, à l'eau, et on vient en fait habiller le bâtiment, et ça permet d'avoir une grande flexibilité sur les façades et donc de pouvoir mettre des ouvrants pratiquement où on souhaite. Et donc ça, c'était vraiment intéressant dans le projet, puisque c'est un projet qu'on a gagné il y a déjà maintenant longtemps, qu'on va devoir commercialiser. Donc c'était bien de ne pas se figer avec des murs porteurs partout et de se retrouver finalement avec un bâtiment qui sera dans l'avenir très peu évolutif. Aujourd'hui, on est sur un système qui est très évolutif et c'est ça qui est intéressant, puisque le bâtiment doit vivre aujourd'hui, mais doit continuer à vivre aussi en fonction dans le temps. Donc pourquoi ces choix ? Donc là, je vous ai parlé vraiment de système constructif, j'y reviendrai quand même un petit peu. Pourquoi ces choix ? En fait, ce bâtiment de la tour Hyperion, 57 mètres de haut, R+17, aujourd'hui, il n'y a pas de bâtiment aussi haut, bâtiment de logement aussi haut dans le monde en bois. Donc forcément, même si je vous ai dit que les techniques étaient maîtrisées, étaient connues, eh ben en fait, il faut faire des efforts, il faut faire des efforts pour rassurer tout le monde et surtout pour entendre tout ce qui, on va dire, tout ce qui est important sur un immeuble comme ça. Donc on a considéré que, vu la maturité, on va dire collective, puisque nous, on inclut dans un ouvrage comme ça, nous-mêmes, constructeurs, concepteurs, mais on inclut aussi, bien sûr, les gens qui sont censés éventuellement vivre dedans et les gens qui sont censés les défendre en cas de problème. Donc on a inclus un noyau bois, un noyau béton, qui permet d'inclure un grand nombre de fonctions de sécurité du bâtiment. Donc les choix techniques. On avait décidé dès le début de ne pas mettre de bois à l'extérieur. Pour nous, c'est important, la pérennité du bois. Donc le bois, il est toujours mieux à l'intérieur d'un ouvrage, à l'abri des variations d'humidité. Donc toute la structure porteuse bois est à l'intérieur. À l'extérieur, puisque c'était aussi un bâtiment de logement, donc les balcons étaient très importants, on a intégré un peu d'acier pour réaliser tous ces balcons. Et je vous en ai parlé, il y a le noyau central. Donc si on rentre encore un peu plus dans le détail, je vous disais, toutes les charges, toute la structure porteuse, elle est réalisée en bois. Donc toutes les charges descendent verticalement à travers des poteaux bois. Alors c'est des poteaux de grande dimension. Là sur l'image, on peut voir qu'il y a plus de 300 tonnes d'effort. Donc ça veut dire des poteaux qui seront jusqu'à 40 cm de côté. Donc ça fait des grands poteaux. Et pour cela, on les a combinés quand c'était nécessaire avec certains éléments d'acier qui permettent de réaliser des balcons de grande dimension pour ne pas limiter, on va dire, la tour à un ouvrage qui soit très monolithique. Donc là, c'était vraiment la structure. Je vais essayer de faire juste deux focus sur la partie façade, puisque la partie façade, c'est ce qu'on voit le plus. Et c'était finalement l'innovation première du projet. Aujourd'hui, je vous ai parlé de façade bois non porteuse. Et en fait, c'est très important, puisque ce type d'ouvrage va pouvoir être mis en œuvre sur la tour, mais on pense surtout que ça va permettre de développer une partie du marché, puisque aujourd'hui commence à se faire des bâtiments en béton, par exemple, qu'on va habiller avec des murs manteaux bois. Donc le développement d'une technique robuste qui permette de réaliser un ouvrage d'une soixantaine de mètres, en fait, nous on pense que c'est vraiment un moyen de faire entrer le bois dans des bâtiments de grande dimension. La façade est non porteuse, certes, mais elle embarque beaucoup de fonctions dès l'atelier. En fait, la façade est préfabriquée en atelier. Et là, quand vous voyez, c'est une illustration de cette façade quand elle était en cours d'essai. On peut embarquer des menuiseries avec les volets roulants, des parements intérieurs, la façade extérieure, les isolants. Donc, la technique de mur-manteau est intéressante puisqu'elle permet de réaliser un hors d'eau, un hors d'air très rapide quand on monte un projet pareil. Donc tout ça, c'est très bien. La technique, elle est connue. Malheureusement, en fait, comme il n'y a pas d'ouvrage bois de cette dimension, il manquait, en fait, on avait un vide technique. Donc il n'y avait pas de texte de référence qui permettait finalement d'expliquer comment monter un bâtiment comme ça. Donc ça nous a poussé à développer alors ce qu'on appelle une ATEX, une appréciation technique expérimentale. C'est en fait un dossier technique très solide qui nous permet d'avoir le regard de spécialistes qui nous permettent d'éviter les erreurs et de pouvoir intégrer des techniques innovantes, mais de façon très sûre et très fiable. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas forcément l'ossature bois, juste un rapide schéma. L'ossature bois, c'est en fait, depuis la membrane d'étanchéité, donc là, vous voyez sur la partie extérieure, qui protège tout le panneau des agressions extérieures. Ensuite, il y a des panneaux qui permettent de régler la sécurité incendie, de l'isolant qui permet le confort des logements, la structure bois qui permet en fait finalement de rigidifier l'ensemble, et ensuite les fonctions intérieures qui sont l'étanchéité à l'air, l'étanchéité à la vapeur, et bien sûr un écrantage feu pour la pérennité de la façade. Je vous parlais de façade non porteuse. Donc là, c'est vraiment un schéma, on va dire, qui explique la statique du bâtiment, de la façade. Mais en fait, on a un panneau qui est posé sur des appuis. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça permet d'utiliser cette technique, certes, sur des éléments bois, mais qui pourrait être utilisé sur des éléments d'autres natures, comme l'acier ou comme le béton. Un deuxième point qui est intéressant pour ce projet, c'est les balcons. Vous avez vu que c'est un projet qui est ambitieux en termes de balcons. Sur ce projet, il y a deux types de balcons, puisque pour que la façade ne soit pas vraiment monolithique et qu'elle puisse vivre, on a intégré plusieurs techniques de balcons. Vous voyez, il y a des balcons qui sont vraiment en pure projection. C'est les balcons que vous voyez en haut à droite. Donc là, c'est des balcons, je dirais, de petite dimension, même s'ils font quand même presque 2 mètres de large, qui sont en fait encastrés sur la structure. Donc ça, c'est un défi assez important qui nous a obligés à développer des systèmes d'hybridation de poteaux bois. Et vous avez des terrasses encore plus ambitieuses qui peuvent aller pratiquement jusqu'à 5 mètres sur lesquelles on va retrouver un appui intermédiaire et nous permettre de faire des très grandes terrasses. Donc sur un plateau, en fait, vous avez un assemblage des deux techniques. En bleu, là, vous voyez les petits balcons, on va dire jusqu'à presque 2 mètres, un tout petit peu moins, et les grands balcons. Donc ça, c'est les deux typologies de balcons. Dans un bâtiment comme ça, les balcons jouent un rôle important. Ils sont importants pour les gens, mais ils sont aussi assez importants pour la sécurité incendie du bâtiment, puisque c'est des éléments qui vont empêcher la propagation au feu sur une façade. Donc, pareil, c'est un projet relativement nouveau. Donc, nous, on a déployé beaucoup de modélisation et on a travaillé avec des laboratoires qualifiés pour ça, pour montrer que ces techniques-là étaient très sûres et qu'on a pu faire participer les balcons à la sécurité de l'ouvrage. Donc, ça passe par beaucoup de modélisation, vérification pour des incendies très longs du comportement de ces ouvrages. Et donc, ça nous a permis finalement d'arriver à un système de balcon qui est finalement accroché à la structure, mais très indépendant. Et donc, on n'a pas de dépendance entre la structure intérieure et la structure extérieure. Donc ça, c'est assez intéressant pour le confort des gens et pour la vie future du bâtiment. Donc les balcons sont accrochés à la structure qui stabilise l'ensemble de l'ouvrage. Donc sur les balcons, juste pour finir rapidement, on a développé des techniques d'hybridation, donc c'est-à-dire pour tirer le meilleur du bois, on l'a utilisé pour descendre toutes les charges du bâtiment, et on a utilisé la finesse de l'acier pour intégrer, on va dire, des balcons assez élégants sur cette structure. Donc je vais passer la parole à Laurent pour nous parler un petit peu plus généralement de la filière bois.
Merci Renaud. Donc je me présente, Laurent Dodini, directeur de la société Lamécole. Donc, je ne vais pas vous arroser de réglementation, de discours techniques. On va faire un petit voyage au cours du temps pour vous montrer que la construction bois, elle existe depuis pratiquement la naissance de l'Homo sapiens. Et on va parcourir le temps et arriver au projet Hyperion. Donc, vous voyez, pour représenter mes propos, au départ, on construisait déjà en ossature bois, mais pour des raisons bien différentes, et aujourd'hui pour en arriver à la tour Hyperion. Donc pour comprendre mes propos, je vous demanderai de bien regarder la définition de la filière sèche. En fait, elle caractérise vraiment le projet de l'Hyperion, et ensuite on parlera de l'évolution de l'utilisation du bois au fil du temps, où avant il n'y avait pas du tout d'ingénierie, et aujourd'hui on arrive à une ingénierie multiprésente et performante. Alors, qu'est-ce que la filière sèche ? C'est de la construction sans utilisation d'eau. Les matériaux utilisés, le bois, l'acier et le plâtre, non pas en gâché, mais en plaque. Une faible consommation d'énergie et une préfabrication de modules en usine. Alors, ce qui est, pour reprendre les propos d'Hervé tout à l'heure, dans l'idée des gens, la construction bois, ça fait peur. Parce qu'on se dit, le feu, comment ça va se comporter en termes de solidité, comment ça va vieillir. Donc, le tout est d'utiliser le matériau à sa juste valeur et dans les bonnes conditions. Comme l'a dit Renaud, on ne met pas d'éléments de structure à l'extérieur. Tout ce qui est porteur se met à l'extérieur et on utilise les vêtures à l'extérieur où on ne met pas en danger la pérennité de la structure. Au départ, quelles étaient l'utilisation du bois au début du monde ? Le bois servait essentiellement à se chauffer, à s'abriter, à se protéger et à se nourrir. Se protéger, on édifiait les cabanes en bois pour se protéger des prédateurs. Il fallait bien se nourrir et il fallait aussi avoir chaud. à savoir que sur, et encore il y a une dizaine d'années, sur, notamment en France, il faut savoir que sur 6 millions de bois extraits des forêts, simplement 600 000 mètres cubes, donc 6 millions de mètres cubes extraits des forêts, 600 000 mètres cubes servaient uniquement à la construction bois, tout ce qui était charpente et mur ossature bois. Le reste, ça passait dans le chauffage, le bois de chauffage, donc pour se nourrir et la fabrication du papier. Alors à l'époque, toujours pour poursuivre l'évolution de l'utilisation du bois, à l'époque pour fabriquer une cabane, pas besoin d'études, pas besoin d'ingénieurs, pas besoin de calculs, pas besoin d'usine, simplement des bras, du courage et un peu de l'huile de coude. Ensuite, on a commencé à inventer des règlements. Au niveau du bois, on a commencé par le CB 71, qui était le pendant du CM 66 pour les anciens, et du BAEL 84 pour les bétonneux. On a commencé à dimensionner, on s'est structuré, on a commencé à fabriquer et à réaliser le levage. En termes de quantité, si on reprend ces trois phases de la construction, ça représentait un tiers d'études, un tiers de production, un tiers de levage, des années 60 environ, à, je dirais pratiquement à aujourd'hui. On était dans une autre démarche de la construction. Aujourd'hui, un chantier, c'est quoi? Notamment la tour Hyperion. Déjà, pour vous, les utilisateurs, les gens qui vont habiter le quartier, il faut éviter les nuisances, il faut des bâtiments à faible consommation énergétique, il ne faut pas polluer. Donc, l'idée, c'est de construire vite. Pour construire vite, il faut bien étudier pour pouvoir fabriquer rapidement. Il faut penser à toutes les contraintes, que ce soit le bardage, l'intérieur, comment on va faire passer les fluides. Donc tout ça, on a commencé à mettre en ordre. Et on est face aujourd'hui à des règlements lourds. On est en train de faire sauter les verrous, notamment avec des gens comme Renault. On va simplifier un peu les règlements. On va essayer de trouver des assemblages un peu moins complexes et surtout faire beaucoup de synthèses en amont pour pouvoir construire vite. Donc dans la première phase de calcul, avant, généralement, quand on décrochait un marché, on signait une affaire, on nous disait « hop, boum, un mois de préparation et dans un mois, tout le monde en branle-bas et on y va. » Et il n'y a pas de changement, l'architecte ne décide pas de changement et on construit. Sur une tour de 50 mètres, il n'est pas question de refaire des dizaines de fois les études parce qu'elles sont déjà suffisamment bien longues. Donc avant toute validation et modification, on se met tous autour d'une table et on réfléchit à tous les paramètres à mettre en œuvre et à tenir pour pouvoir réaliser la construction. Une fois que les plans, les calculs ont été faits et validés, on va réfléchir à l'industrialisation. Donc nous concernant pour le lamellé-collé, tout se prépare en usine, les murs ossature bois aussi, et ensuite on va gérer l'intendance des transports et de la mise en œuvre sur le terrain. Donc là, ici, on a un petit résumé sur les photos. À gauche, en haut, vous voyez, déjà, on part de l'abattage des arbres et du traitement des bois au niveau de la scierie pour produire la matière première. Ensuite, dans les photos du centre, vous avez un banc de collage et un centre d'usinage pour réaliser les poutres et ensuite l'expédition. Tout à l'heure, Hervé a parlé de les bétonneux se sont mis à faire du bois. Et nous, les industriels du bois, on a regardé aussi ce que faisaient les bétonneux. Parce que c'est très complémentaire. Donc en termes de sécurité, ils sont organisés depuis bien longtemps. Ils ont l'expérience de construire des immeubles en béton de grande hauteur. Donc on a regardé comment ils ont mis en œuvre. Et on a intégré la mise en sécurité de la construction à l'utilisation du matériau bois, notamment pour les planchers, vous allez voir. Donc ça, c'est un résumé, on reviendra après. Vous voyez au milieu, à droite, la sécurité qui est intégrée sur les dalles bois qui vont être mises en œuvre, au même titre que cette sécurité est intégrée sur les dalles en béton, quand ils réalisent des immeubles en béton. Donc pour vous dire que notre métier a vraiment évolué, on est passé de l'artisanat, parce qu'avant le charpentier bois, dans l'esprit de tout le monde, ça restait de l'artisanat. Tout le monde se dit, bon, on est capable de faire une cabane de jardin chez soi, on achète quelques 6-17, un peu de bardage, et en avant Guingamp, on construit sa petite maison. Aujourd'hui, on est passé dans le monde de l'industrie, on a calqué sur le modèle de nos amis bétonneux, et en fait, maintenant, ils viennent chercher chez nous les performances du bois et l'idée de l'allier avec les performances du béton, notamment sur la tour, le noyau central en béton qui sert à contreventer le bâtiment. Et maintenant, donc, l'évolution de cette ingénierie, où on est passé de l'ingénierie zéro pour faire la cabane en bois, on arrive à une ingénierie. Tout à l'heure, je vous avais dit qu'il y avait un tiers de levage, un tiers de production et un tiers d'études. On en arrive maintenant à un demi d'études. C'est la partie la plus importante de l'opération qui va définir tout le modèle de production en termes d'industrie. Et en fait, le levage, ça représente un quart, la mise en œuvre qui est très rapide et qui se fait dans des conditions propres. Merci.
On vous propose d'échanger si vous avez des questions. On est là. Monsieur Colombani.
Ça marche. Bon, j'ai quelques questions techniques à vous poser parce que je suis ingénieur bois, j'ai un petit peu construit et j'ai vécu 25 ans en Amérique du Nord, donc je connais le bois. Je suis très sensible à tout ce qui a été dit. Évidemment, j'applaudis des deux mains de l'arrivée d'un bâtiment de cette ambition, je dirais. C'est même pas la hauteur, l'ambition est réelle. J'ai quelques petites questions concernant la réalisation. Premièrement, la filière locale. Les panneaux de CLT, en quoi seront-ils faits ?
On fait au fur et à mesure ou vous faites
Oui, allez-y. En quoi seront faits les panneaux de CLT ?
Alors, les panneaux de
plancher.
Oui, les panneaux de plancher, les panneaux de CLT, donc vous connaissez le CLT, ils seront en bois locaux, donc ce sera...
En Panéland ?
Probablement en Douglas. Épicéa. Probablement en Épicéa.
Des pissières de Corrèze ou des choses comme
voilà.
Ça.
Bon. Mais là aujourd'hui, on n'est pas. Ça pourrait être très bien aussi du pain des Landes, c'est on va dire le choix final.
Il y a un engagement très net à ce sujet. Ah ben
je pense, vis-à-vis de l'aménageur, on a un contractuel.
D'accord.
On a pris l'engagement de travailler avec des fournitures de la région.
Oui.
Pour compléter les propos, ce projet en fait, ça va vraiment doper la filière bois. Actuellement, votre question, elle est loin d'être idiote. C'est qu'au niveau de la forêt locale, oui. Il y a encore beaucoup à faire.
Ah, ouais.
Énormément à faire. J'ai rencontré les scieurs. Et il y a une volonté, enfin, suite à Woodrise, il y a une volonté de se mettre autour de la table et de se grouper. Parce qu'avant, on était chacun dans son coin. Ça, c'est la méthode française. Hein. Chacun tire la couverture pour soi. Donc maintenant, il y a vraiment un développement, une volonté... que ce soit au niveau des donneurs d'ordre, des promoteurs, des majors du BTP aussi, et nous, à notre niveau, les constructeurs bois, de faire avancer la machine. Donc le projet est lancé. Donc effectivement, pour parer à... Parce qu'on est quand même contraint au niveau du temps. Hein, ça arrive, c'est demain. Donc effectivement, au niveau des planchers, on va utiliser l'épicéa de Corrèze. Hein. Mais il n'est pas impossible d'utiliser du bois local.
D'accord.
Tel le pin des Landes. Et idem au niveau du lamellé collé.
Alors, j'ai apprécié tout à l'heure, je vous remercie de la réponse qui me satisfait. J'ai apprécié tout à l'heure ce que vous avez dit concernant le fait que le bois, on le garde au sec et qu'on fait un habillage extérieur et une façade métallique. À ma petite échelle, j'ai réalisé avec BNP Paribas et des structures d'éphage, un édifice de 120 mètres de long sur l'avenue Thiers, de 222 logements que j'ai livré il y a 3 ans, où l'ensemble des façades est en ossature bois, en pin des Landes, insérée dans une résille de béton. Mais là, il y a évidemment les étages et les voies portées étaient en béton. Mais ça, c'était évidemment la technique, c'est celle que vous préconisez. Façade préfabriquée en usine, insertion de menuiserie. Et c'est un système extrêmement efficace puisque j'ai fait extrêmement plaisir aux promoteurs puisque le bâtiment a été clos en 3 semaines. Voilà.
Merci pour... Y a-t-il d'autres questions ?
Bonsoir, juste une petite question qui dit bois, dit utilisation de colle, et qu'en est-il d'un point de vue écologique ?
Ça, c'est pour Renaud.
Oui, effectivement, vous avez raison, puisque on va dire le vrai gain de la colle pour la construction bois, c'est de permettre de créer des ouvrages de grande dimension et d'optimiser surtout la matière, de partir de ressources de petites dimensions et d'en faire des grandes dimensions. Sur des produits comme ça, on est sur du collage polyuréthane, donc un collage qui polymérise à 100% en phase usine. Donc on a moins d'1% de colle dans des produits comme ça. Et c'est des colles qui sont inertes, en fait, et qui ensuite permettent d'être retraitées dans des, on va dire, dans des filières très classiques par recombustion ou par réutilisation. Donc en fait, il n'y a pas de colle émissive dans ces matériaux. Il y a 100% de la polymérisation qui a lieu en usine.
Pour compléter les propos, on a eu il n'y a pas très longtemps un contrôle de l'inspection du travail au niveau de l'entreprise pour le contrôle justement des colles, avec un bureau spécialisé tel que le FCBA. Et en termes de formaldéhyde, quantité dans l'air pratiquement nulle. Et le seul formaldéhyde qu'ils ont trouvé, c'était que l'opérateur, le contrôleur est venu et c'était un fumeur. Et les formaldéhydes qu'ils ont trouvés, c'est au niveau de ses doigts quand il tenait la cigarette. C'était la petite anecdote.
Habituellement, je dirais en immeuble grande hauteur, on essaye d'éliminer effectivement les balcons, les terrasses à l'extérieur. Là, on voit que sur le projet, il y a des balcons qui font 5 mètres, qui sont carrément sur les derniers niveaux, avec des effets de vent. En termes d'usage, ça risque pas de poser des problèmes ?
Je vais... Alors, techniquement, Renaud va répondre. Après, notre volonté en tant qu'opérateur, c'était quand même d'offrir des surfaces extérieures. Ne pas non plus tomber dans le cliché de parce qu'on est en hauteur, parce qu'il y a du vent, on ne fait rien. Donc on a pris en compte ça. Sur notre façade, on n'a pas rentré dans les détails, mais on a des écrans de protection qui, du coup, nous donnent des efforts au vent. Donc techniquement, Renault peut répondre, mais nous, sur le confort, on a pensé à mettre des écrans pour protéger les gens sur le balcon. Et techniquement, Renault en a expliqué tout à l'heure, il va rentrer dans le détail.
Oui, je vous ai montré, en fait, les images que je montrais, c'était vraiment la structure du balcon, mais en fait, il y a des écrans, c'est ce qu'on expliquait, il y a des écrans qui permettent en fait de faire aussi vivre la façade, et ça, le confort au vent, c'est quelque chose aussi qu'on a étudié, donc on fait des essais, alors c'est des essais numériques, de simulation de courant d'air, donc ça permet aussi de valider un confort sur les balcons. Donc ça aussi, ça a été pris en compte, bien sûr.
Donc et pour l'aspect de la végétation Pour l'aspect de la végétation, ça ne posera pas de problème non plus que de poser de la végétation, végétaliser les balcons, etc.
Alors, on va dire qu'il y a une végétalisation possible, c'est par rapport aux charges, en fait. Donc, il y a une végétalisation possible, et donc, il y aura de la végétalisation. On ne sera pas dans des logiques d'arbres plantés sur les terrasses. Voilà, c'est la seule, je dirais, c'est la seule limite. On sera dans de la végétation plutôt limitée.
Merci de votre attention.
Merci.